Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un personnage à la croisée des chemins de l'histoire et de la légende. Un personnage aux multiples figures, chef barbare mais successeur des Césars, chef de guerre mais lettré et initiateur d'une renaissance intellectuelle, défenseur de la foi mais aussi créateur d'un système monétaire. Rarement, oui, rarement dans l'histoire de l'humanité, un homme et une œuvre auront cumulé autant de charges, de pouvoir, frisant parfois le paradoxe ou bien même l'ambiguïté. Un homme aux multiples visages donc, et dont on parle encore aujourd'hui comme étant le fondateur de l'Europe, j'ai nommé Charlemagne. Bien illusoire, oui, et la tâche d'évoquer un homme de cette envergure en moins d'une heure, c'est pourquoi nous ne retiendrons aujourd'hui que deux aspects, pourtant bien importants, liés entre eux, le religieux et le politique, un lien incarné par ce couronnement impérial du jour de Noël de l'année 800. Pour évoquer cette époque charnière, pour évoquer cette légende à la barbe fleurie, j'ai l'honneur de recevoir Jean Favier. Jean Favier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre, Jean Favier, de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, historien, votre carrière est très fournie puisque vous avez été professeur d'université à Rennes, à Rouen, à Paris, président de grandes institutions comme la Bibliothèque Nationale de France, et vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, je me souviens vous devoir beaucoup personnellement en faculté grâce notamment à un Philippe Lebel et à une monographie consacrée à la guerre de Cent Ans. Et vous avez publié en 1999, à la veille donc du 700e anniversaire du couronnement, une biographie de Charlemagne. Ma première question portera sur la nature même de cette biographie. Cette biographie, en fait, embrase toute cette période du Haut Moyen-Âge. C'est un des caractères de l'histoire médiévale que d'avoir une approche globale, une approche générale visant à situer l'homme dans la société dans laquelle il vit.
Oui, je pense que le mot biographie ne doit pas induire en erreur. Il ne s'agit pas de prendre un homme le jour de sa naissance, de le conduire jusqu'à sa mort en racontant par le menu ses faits et gestes quotidiens, mais de situer un personnage dans une époque et de voir en quoi il est d'une part lui-même significatif de cette époque, en quoi il procède de cette époque et en quoi il a façonné une partie, tout au moins, de la société de son temps. Un gouvernant ne façonne jamais toute la société. Il lui arrive quand même d'infléchir un certain nombre de comportements ou d'évolutions qui étaient déjà inscrites dans l'histoire précédente et qui se continuent. Il lui arrive d'infléchir, il lui arrive aussi de créer, il lui arrive d'innover et de vouloir. Or, Charlemagne, c'est à la fois un homme qui continue, notamment son père, Pépin le Bref, qui n'était pas un médiocre, même si le bref n'est allusif qu'à sa taille. Charlemagne est un homme qui continue, mais c'est un homme qui veut, qui impose, qui décide et qui, par conséquent, organise. Et il organise à la fois, vous évoquiez ces deux types de sociétés, la société religieuse et la société laïque, si on peut employer ce terme-là, disons simplement la société politique.
Alors venons-en directement au fait, et peut-être un rappel historique, vous évoquiez Pépin le Bref. Charlemagne fait partie de la dynastie des Pipinides. Qu'étaient ces fameux Pipinides?
Les Pipinides, ce sont de grands propriétaires dans le royaume d'Austrasie. Le royaume d'Austrasie, si vous voulez, c'est un royaume franc. Le royaume franc, dans son ensemble, est partagé en plusieurs royaumes. C'est celui qui est autour de la Moselle, de la Meuse, qui va jusqu'au Rhin, qui déborde le Rhin et qui vient quelquefois un peu plus à l'ouest. Bon, ce sont des très grands propriétaires, donc très influents, riches, riches en terre, donc riches en hommes, et par conséquent en capacité politique. Lorsque les Mérovingiens s'effacent progressivement de la scène politique, non pas du royaume mais de la scène politique, ce sont les maires du palais qui prennent le pouvoir. Les maires du palais, théoriquement, le maire du palais, c'est le premier des fonctionnaires. En réalité, c'est le patron. Et le maire du palais d'Austrasie, ben, tout naturellement, c'est celui qui est le plus riche, je vous le disais, en moyens d'action, c'est-à-dire en hommes. Le maire du palais d'Austrasie devient assez vite le maire du palais de tous les royaumes, c'est-à-dire notamment de celui de Neustrie, celui qui est autour de Paris, de Rouen, etc. Et vous avez donc un moment qui est charnière au milieu du 8e siècle, où tout le monde se demande à quoi sert encore un roi qui ne règne pas, c'est le dernier des Mérovingiens. On plaisante toujours en les traitant de rois fainéants, c'est une mauvaise plaisanterie. Un chroniqueur parlant d'un petit Mérovingien qui est mort en enfance dit « qui nikil fecit », qui n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il était mort à l'âge de quelques mois. Alors on en a déduit que c'était des rois fainéants et toute l'iconographie du 19e siècle, oui, les a représentés. Oui, mais le char à bœuf, le bœuf c'était la richesse à l'époque. Le cheval n'apparaît qu'après les Mérovingiens comme moyen normal de prééminence aristocratique. Et par conséquent, un beau jour, Pépin le Bref, maire du palais, fait savoir au pape qu'on attend de lui une réponse. La question est la suivante, est-ce qu'il est normal que celui qui a le pouvoir ne soit pas roi et que celui qui est roi n'ait pas le pouvoir ? Réponse du pape, évidemment, il est normal que, vous l'avez deviné. Et c'est ainsi que Boniface d'abord, Saint Boniface, grand évangélisateur de la Germanie du Nord, Boniface, puis les évêques, puis le pape lui-même, sacre Pépin. Sacré, c'est, et j'insiste là-dessus parce qu'on va en reparler à propos du couronnement impérial. Le sacre, c'est un geste, c'est une onction religieuse qui confère presque un sacrement. C'est un signe de croix fait sur plusieurs parties du corps, sur le front, sur la poitrine, sur les mains. On a coutume de dire que ça apparente le sacre royal au sacre des évêques, en réalité il le précède. Le sacre des évêques vient après. C'est tout simplement une référence biblique, référence au sacre des rois d'Israël par le grand prêtre. Bon, c'est très important car ça confère au roi carolingien, Charlemagne va être l'éponyme, celui qui donne son nom à la dynastie, mais le premier c'est Pépin, son père. Ça leur confère un caractère religieux. Il est loin du Seigneur, que n'était pas le Mérovingien. Et que sera après le carolingien, le capétien? Il est celui qui est, je reprends la formule d'un juriste du XVe siècle, la première personne ecclésiastique du royaume. Ce qui ne veut pas dire un clerc, ce qui veut dire qu'il a tout autre chose que le charisme du fils de son père.
Est-ce que Pépin recherche une légitimité,
oui,
en se tournant vers Zacharie?
Absolument. Il recherche une légitimité, il recherche une cohérence politique aussi, et très vite, 3 ans après, il fait sacrer, une deuxième fois, il se fait sacrer lui-même par le pape, cette fois, Étienne II, mais il fait sacrer ses 2 fils. L'un des 2, ce sera Charlemagne, qui donc, dans l'enfance, est sacré roi des Francs. Ça ne gêne pas qu'il y ait plusieurs rois des Francs, on va y revenir. Qui est sacré roi des Francs, en sorte que le geste de Noël 800 n'est pas un sacre, c'est un couronnement. Il est couronné empereur, mais il était déjà sacré roi. Et ceci est très important parce que ça explique le besoin d'un nouveau titre en 800.
Alors, il y a une autre nuance que vous apportez, page 36, je vous cite. Vous dites, c'est un avis que l'on demande au pape, non une investiture.
Non. On ne lui demande absolument pas l'investiture, on lui demande une réponse de bon sens. Et bien entendu, quand on veut une réponse de bon sens, on suggère le bon sens.
Je reviens peut-être un peu en arrière, parce qu'il y a un grand-père qui a laissé son nom dans l'histoire, c'est Charles Martel. Charles Martel était maire du palais, mais il avait aussi le titre de duc et prince des Francs. Que signifie ce titre de prince, de princeps ?
Le titre de princeps, de prince, est un titre romain. Et c'est un emprunt à l'Empire romain qui n'a pas une signification juridique précise. Entendons-nous, le princeps romain ou le princeps, comme vous voudrez, c'est pas le chef d'une principauté. C'est quelqu'un qui participe de l'autorité impériale. Et il y a donc là déjà une référence à cet empire que Charlemagne va vouloir recréer en se posant en successeur des Césars.
En novembre 751, vous en avez parlé, c'est l'onction royale pour la première fois à Saint-Denis.
Il est roi à partir de ce moment-là.
Oui, oui, oui.
Il est roi des Francs, entendons-nous. Non pas d'un royaume, mais d'un peuple. C'est très important pour la suite.
En soi, c'est un geste inédit pour l'histoire des Francs, je ne vais pas dire l'histoire de France.
Oui, ce qui est inédit, c'est que jusque-là, la légitimité des rois mérovingiens tenait à leur appartenance à une famille. À une famille qui, ne vous étonnez pas du paradoxe, dans l'histoire il y en a d'autres, tire elle-même cette légitimité de son ascendance divine. Ils sont les descendants d'un dieu, et ils le restent même quand ils sont baptisés. Personne ne voit à ce moment-là qu'il y a contradiction. En fait, Clovis, son père Childéric, appartiennent à cette famille d'origine divine. Et ensuite, ils appartiennent à la famille de Clovis. Naturellement, les Mérovingiens chrétiens et très chrétiens du 7e siècle ne disent pas « je descends d'un dieu », ils descendent de Clovis. Mais la légitimité, c'est le fruit de l'appartenance à une race élue qui est la race royale. Par conséquent, le geste très nouveau, c'est de choisir en dehors de la famille royale, de faire appel à celui qui est capable. Et c'est ce qui se reproduira à la fin des Carolingiens.
Avec les Capétiens.
Avec Hugues Capet. Mmh. Hugues Capet, qui sera appelé, non pas parce qu'il a du sang carolingien, oh, ses successeurs, jusqu'à Philippe Auguste inclus, essaieront de se trouver du sang carolingien, ils épouseront des filles de la famille de Vermandois parce qu'elles ont une goutte de sang carolingien, ils essaieront d'être descendants de Charlemagne, mais ça c'est du rattrapage, ça c'est de la volonté ultérieure de s'inscrire dans une continuité. Mais en 987, on va chercher Hugues Capet parce que c'est celui qui est capable de gouverner, et non pas parce qu'il a peut-être un tout petit peu de sang carolingien. Il semble d'ailleurs que Hugues Capet lui-même n'en ait pas, c'est après qu'on a couru au sang carolingien. Je savais le dernier à avoir cherché à avoir du sang carolingien, ce qui est un bluff énorme, mais c'est Saint-Simon. Le duc de Saint-Simon essayait de se rattacher au Vermandois pour être carolingien.
Oui, nous avons
c'est pour ça qu'il avait refusé d'ailleurs d'être duc abreuvé du roi en disant « mais je suis au-dessus de ça ».
Le biographe de Saint-Simon qui est venu à ce micro n'a pas manqué de rappeler ce détail.
Ben, bien sûr.
Je reviens en novembre 751. Il est important, pas d'anachronisme, lors du sacre, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas encore de couronne.
Il n'y a absolument pas de couronne. Le roi mérovingien est élevé sur le pavois. Tout le monde sait ça depuis l'école primaire, tout au moins à l'époque où on apprenait ça à l'école primaire. C'est-à-dire qu'il est proclamé par son peuple. Et qu'on le, j'allais dire, on le fait monter sur un bouclier. Ça, c'est le geste, tout simplement. En réalité, il est reconnu. Il doit être reconnu par son peuple. Il n'y a pas de couronne. Et la seule couronne qui va apparaître, ce sera la couronne de fer des rois lombards. Quand Charlemagne va la recevoir, après avoir mis à mal le royaume des Lombards, c'est-à-dire de barbares établis dans l'Italie du Nord, un peuple barbare qui est arrivé là après les Ostrogoths, Charlemagne reçoit la couronne de fer des rois lombards. Pourquoi couronne de fer ? Parce que dans le cercle qui est la couronne, c'est avant tout un cercle, une couronne, et le cercle métallique, on a inséré un clou de la Passion. Un clou de la croix du Christ, ou tout au moins, soi-disant-elle, naturellement l'Église ne s'est jamais prononcée sur l'authenticité de cette relique. Mais la couronne n'est pas nécessaire pour le royaume des Francs. Ce qui est nécessaire, c'est d'être reconnu. Et bien évidemment, reconnu par qui ? Par les grands, et en tête des grands. Ben, ceux qui pensent un peu plus que les autres, c'est-à-dire les prélats, c'est-à-dire les évêques, c'est-à-dire les abbés, le haut clergé, est extrêmement important et ça explique le rôle que pourra jouer ensuite un Charlemagne, mais déjà un Charles Martel, dans la vie de l'Église du Royaume Franc. C'est que avant même d'être sacré, d'être loin du Seigneur, il est l'allié de l'Épiscopat.
Est-ce que réciproquement, le pape lui-même tire un avantage à soutenir cette dynastie pipinienne ?
Oui, il tire un avantage singulier, c'est de rester en vie et de garder la partie de l'Italie qui va former les états pontificaux grâce à une donation de Pépin le Bref, qu'on baptise donation de Constantin, mais qui est en réalité de Pépin le Bref. Ce qu'il y gagne, c'est qu'il est très contesté en Italie, qu'il est malmené parfois par les Lombards et que c'est le roi des Francs qui vient le rétablir. Et lorsque, à la fin du 8e siècle, le pape est accusé de toutes sortes de malversations, c'est Charlemagne qui vient, non pas pour se faire couronner empereur et demander au pape une couronne, surtout pas, il vient pour humilier le pape et il dit au pape, tu as à te justifier. On présente au pape, j'anticipe un peu sur ce que vous vouliez faire, mais pardon, c'est dans la logique de ce que nous disions à l'instant même, Charlemagne est venu pour que le pape se justifie de ce dont on l'accuse, c'est-à-dire toutes sortes de péchés. Et le geste est humiliant pour le pape, on lui présente un évangile et il doit jurer sur l'évangile qu'il est innocent. Et là, retournement des opérations, le pape prend la couronne impériale qu'on a fait venir, c'est-à-dire un diadème qu'on sort du trésor de Saint-Pierre, le pose sur la tête de Charles, et alors que tout a été fait pour que Charles soit proclamé empereur, rien n'avait été fait pour que ce soit le pape qui le fasse.
Il y a une sorte d'improvisation.
Le pape aurait dû être Non, il y a une double mise en scène, et celle qui réussit finalement, c'est celle de Charles, alors qu'au début, ça a été celle du pape. Le pape se donne l'initiative de le proclamer empereur alors qu'on se prépare à le faire, on se prépare à le faire dans les minutes qui viennent. Mais à ce que le peuple l'applaudisse comme empereur, pas à ce que le pape le fasse empereur. Et le pape, qui a été humilié l'avant-veille, qui a été humilié la veille, qui est là comme un pauvre homme qui est prié de dire la messe et c'est tout. Charlemagne lui a d'ailleurs dit, celui qui défend le royaume chrétien, c'est moi. Et toi, tu pries pour moi, c'est tout. Et le pape retourne la situation, lui met une couronne sur la tête et le proclame empereur. Charlemagne, on dirait qu'il a été furieux ensuite parce que... Non, mais il est furieux parce qu'il s'est fait duper. Il comptait bien que le pape ne soit que témoin du geste et non pas de devoir dire merci au pape. Mais très vite, eh bien, le pape sera ramené à son potentiel d'influence et c'est Charlemagne qui deviendra le véritable chef de la chrétienté occidentale.
Je reçois Jean Favier, auteur d'une biographie de Charlemagne parue chez Fayard, et vous êtes membre, Jean Favier, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nous nous retrouvons dans une minute.
Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire, à l'honneur de recevoir Jean Favier, auteur d'une biographie de Charlemagne. Et nous évoquons un aspect de cette vie très foisonnante de Charlemagne, à savoir son couronnement à Noël, à l'époque de Noël, le jour de Noël de l'année 800. Alors, je disais au début de notre émission que le contexte, l'époque est très importante et vous y apportez de nombreux chapitres. Il y a un point très important, c'est que nous vivons à l'époque dans une société fortement christianisée. Et cette christianisation s'est beaucoup développée à l'époque des Mérovingiens.
Oui, probablement plus fortement christianisée dans les villes que dans les campagnes, hein, où des relents de paganisme, et en tout cas d'un peu tout, subsisteront longtemps. Mais il ne faut pas oublier que la Gaule a été christianisée entre le 3e et le 4e siècle. Lorsque l'on a célébré, voici quelques années, le 15e centenaire du baptême de Clovis, un certain nombre de gens ont parlé de l'anniversaire de la christianisation de la France et même du baptême de la France. C'est une stupidité. Et j'avais fait remarquer que si Clovis était baptisé, c'est qu'il y avait un évêque pour le baptiser, il s'appelait Sarmi. Et je me souviens d'une réunion où j'avais à côté de moi le cardinal Lustiger, l'archevêque de Paris. Je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, je crois savoir, vous avez eu un prédécesseur qui s'appelait Denis. Bon, et soyons clairs, la Gaule est déjà la Gaule franque. Disons plutôt ça que le mot France, est déjà très fortement christianisé. Dans toutes les cités romaines, il y a un évêque, il y a une cathédrale, il y a un clergé, il y a des monastères qui sont en bordure des villes et qui rayonnent sur les campagnes, et il y a, ce qui est très important pour le gouvernement du royaume franc, des réunions périodiques de ce clergé. On parle de concile. Le mot concile, aujourd'hui, ne se conçoit que s'il s'agit de réunions œcuméniques. C'est-à-dire l'ensemble de l'Église, tout au moins de l'Église latine. Bon. À l'époque, on parle très bien du concile de la province de Rouen ou du concile de la province de Sens, qui comprend Paris. Autrement dit, un concile, c'est la réunion peut-être de 5 évêques et de 3 abbés. Un abbé, je rappelle, c'est le chef d'une abbaye, hein, c'est pas simplement un prêtre. Et les rois francs, déjà à l'époque mérovingienne, mais surtout à partir de Charles Martel, qui n'est pas roi, de Pépin le Bref, qu'il devient, et de Charlemagne, s'appuient sur ce clergé, à la fois parce que ce sont les intellectuels de l'époque, ce sont ceux qui sont capables de comprendre mieux que les comtes, c'est-à-dire les compagnons de guerre du roi, sont capables de comprendre un certain nombre d'enjeux politiques. Alors, qu'on ne dise pas ce sont des clercs qui jouent un rôle qui n'est pas le rôle d'un clerc. Non, ils sont une élite, une forme d'élite, les comtes en sont une autre. Et l'une des grandes pensée politique de Charlemagne, c'est de les rapprocher, ces deux élites. Quand Charlemagne crée des écoles, il veut faire monter le niveau intellectuel de qui ? Mais des clercs, parce qu'il en a assez d'entendre dire qu'il y a des curés de campagne qui ne sont pas capables de réciter convenablement le pater. Il veut monter le niveau du haut clergé pour que celui-ci soit capable d'accéder à des controverses théologiques et de prendre des positions. Et puis monter le niveau des laïcs aussi. Et quand il crée au palais même, le palais avec un grand P, c'est-à-dire avec sa chapelle, une école du palais. C'est pas pour le plaisir, comme dans les manuels de la Troisième République, d'aller voir les bons élèves et les mauvais élèves, de mettre les uns à gauche, les autres à droite et de gronder les mauvais. Non, c'est parce qu'il voudrait, et n'a pas réussi, il voudrait que les comtes, c'est-à-dire les administrateurs, nous dirions aujourd'hui les préfets ou les préfets de région, soient aussi instruits que les évêques. Et que les évêques n'aient pas le monopole de savoir lire une instruction reçue du roi. Quand les évêques et les comtes viennent à l'assemblée qui se réunit au moins une fois par an, souvent avec sa chapelle à la fin, pas au début ailleurs, et notamment à Paderborn, quand ils viennent à l'assemblée, ils reçoivent des consignes orales, des ordres, mais il faut immédiatement en prendre note. Or, les clercs étaient les mieux armés pour garder mémoire. Attention, il nous a dit ça, il nous a dit ça. Nous avons des capitulaires. Les capitulaires, c'est quoi? Ça veut dire des assemblages de petits chapitres. Capitulaire, ça veut dire petit chapitre. Un capitulum, c'est un chapitre. C'est un alinéa. Et ce sont des pense-bêtes, ce sont des aides-mémoires. Alors, parfois rédigés par les bureaux même de l'empereur, vous distribuerez ça au comte pour qu'il l'emporte, qu'il ne se trompe pas, qu'il se souvienne de ce que j'aurais dit. Ou bien par le comte ou l'évêque qui prend des notes dans l'assemblée pour se souvenir de ce qu'on lui a dit. Ce qui nous étonne, et ça nous étonne moins quand nous constatons que d'un capitulaire à l'autre, il y a des différences singulières. C'est que c'est ce que chacun sort de l'assemblée, ce que chacun reçoit et emporte. Mais soyons clairs, Charlemagne aimerait bien que ses comtes, premièrement, comprennent ce que comprennent les clercs, deuxièmement, soient capables d'en garder mémoire et de traduire ça une fois rentrés chez eux. L'école du palais a été faite pour cela et elle a été l'un des premiers jalons sur le chemin qui sera, sous son petit-fils, la grande renaissance carolingienne, c'est-à-dire un moment d'effervescence intellectuelle qui touche tous les milieux.
Et dont participe notamment le fameux Boniface.
Alors Boniface, c'est avant lui. Boniface, c'est au temps de Pépin le Bref. Mm. C'est un clerc et c'est un clerc de très très haute volée, bien entendu.
Nous sommes au milieu du 8e siècle.
Mais tous les clercs du temps de Charlemagne n'ont pas le niveau de Boniface. Mais il faut bien voir que Charlemagne profitera de cette mainmise sur le haut clergé pour se poser lui-même, j'allais dire en docteur de l'Église, dans des affaires comme celle du filioque. Le filioque, c'est une phrase, un mot, deux mots ajoutés au symbole de Nicée. Le symbole de Nicée, c'est le « je crois en Dieu », c'est le credo, c'est le résumé de la foi élaboré par le concile de Nicée au IVe siècle. Et Charlemagne, constatant que le fils procède du père, ajoute « filioque », c'est-à-dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et non pas du Père tout court. Autrement dit, il établit une hiérarchie. Et le filioque va être une querelle épouvantable. Le pape hésite beaucoup, il ne sait pas s'il doit dire oui, s'il doit dire non. Finalement, c'est Charlemagne qui l'impose. Quand émerge en Espagne une doctrine qui est l'adoptionnisme et qui règle le problème de la Sainte Trinité en disant le Fils, c'est le Fils adoptif du Père. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait comme le Père. C'est Charlemagne qui fera condamner avec un concile. Il convoque les adoptionnistes devant un concile, et dans ce concile, des gens comme Alcuin, comme Théodulfe, qui sont les grands intellectuels de l'entourage de Charlemagne, qui sont ses maîtres à penser, y compris en politique, on va y revenir tout à l'heure à propos de 800, si vous voulez bien. Et c'est Charlemagne qui impose la doctrine orthodoxe contre les partisans de l'adoptionnisme. Charlemagne, en réalité, il n'est pas l'homme qui veut imposer une façon de voir, une façon de comprendre et une façon de croire. Il veut que ça soit la même façon dans tout l'Empire. Autrement dit, son souci, c'est l'unité. Et l'unité passe par l'unité intellectuelle et elle passe par l'unité religieuse. Si les gens prient différemment, il n'y a plus d'unité. D'où le fait qu'il impose le rite romain. Si dans les églises on chante encore parfois du grégorien, c'est quand même bien parce que Charlemagne a décidé que la façon de chanter romaine serait adoptée par tout le monde. Pourquoi ? Mais pour qu'on n'ait pas la cacophonie, pour que tout le monde ait bien la même façon de raisonner, de ressentir et de s'exprimer. Alors il y a une volonté très politique d'unité qui passe par une unité religieuse. Et là, il faut bien comprendre que pour Charlemagne, c'est la même chose.
Je vous cite Jean Favier, « L'alliance de la nouvelle royauté et de l'Église sera le ciment de l'unité chrétienne en Occident. Le couronnement impérial n'en sera en 800 que la conclusion. »
Absolument.
Je souhaiterais m'arrêter quelques instants au personnage Charlemagne lui-même pour en faire tout simplement le portrait. Parce que finalement, nos mémoires voient le Charlemagne avec sa barbe fleurie, alors que déjà quand il arrive au pouvoir avec son frère Carloman, car ils sont deux, il n'a à peine 30 ans.
Est-ce que je peux vous raconter une anecdote personnelle? Il avait été décidé d'émettre une pièce d'un franc à l'effigie de Charlemagne. Il y a eu un certain nombre de projets qui ont été soumis au chef de l'État, lequel m'a fait venir et m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit surtout pas le barbu, qui n'a jamais existé. Et la barbe fleurie, c'est chanson de geste. Prenez un homme imberbe, vigoureux, 40 ans, pas le vieillard. Et François Mitterrand m'a dit, oui, vous avez raison. Je vais quand même prendre celui que les Français reconnaîtront. On a eu le barbu.
Alors, est-ce que vous pourriez faire une description de ce personnage ?
Il faut voir que l'empereur fatigué de la fin du règne, des années 810 si vous voulez, cet empereur fatigué, ben, c'est un vieillard. Mais que l'empereur qui conquiert la Saxe, l'empereur qui va jusque chez les Magyars, l'empereur qui soumet à sa botte les deux tiers de l'Italie, l'empereur... Mais le roi, avant l'empereur même, c'est un homme vigoureux, c'est un homme qui ne craint sa peine ni à cheval, ni à la guerre, ni pour faire des lieux et des lieux. C'est un homme qui voit très loin, qui est capable d'organiser à l'avance, qui planifie ses campagnes un an à l'avance, parce qu'une campagne qui n'est pas planifiée, c'est une campagne où on ne trouvera pas de quoi nourrir les chevaux, de quoi nourrir... Non, tout ceci est parfaitement organisé. Le drame de ses successeurs, c'est que les rois des Francs, et les empereurs, après Charlemagne, vont perdre l'initiative. Pourquoi Charlemagne a-t-il l'initiative ? Parce que c'est lui qui attaque, c'est lui qui va s'établir. À partir du moment où ce sont les Normands qui arrivent, on n'a plus le temps de demander des consignes avec sa chapelle, et le véritable patron sur la Basse-Seine, par exemple, eh bien c'est le comte. C'est le comte qui est à Rouen ou à Paris et qui est capable de mobiliser les forces en quelques heures pour répondre à une agression. Autrement dit, la lenteur des communications ne condamne pas l'Empire carolingien parce que Charlemagne... Au temps de l'Empire de Charlemagne, à l'initiative des opérations, ensuite, ses successeurs ne l'ont plus. Alors, c'est un organisateur, vous disais-je, c'est quelqu'un qui est assez capable de légiférer, si je puis dire, le mot loi est inexact. Hein. Une loi, c'est la loi des peuples, et on n'y touche pas. Ce sont des ordonnances, ce sont des édits, ce sont des capitulaires. Mais il est capable de légiférer dans des domaines extrêmement divers. Vous évoquiez tout à l'heure la monnaie. On pourrait dire les poids et mesures. Il n'a pas réussi pour les poids et mesures. Les pesanteurs sociologiques du monde paysan l'ont emporté. Hein. Mais en monnaie, il a réussi. Ça a été le système livre sous denier qui a quand même eu une certaine fortune jusqu'à la Révolution française, avec beaucoup de modifications. Il est capable de penser en même temps une politique d'éducation, d'instruction. Il est capable de penser en même temps, j'allais dire, les problèmes d'approvisionnement, que ça soit l'approvisionnement en armes ou que ça soit en blé. Il est capable de concevoir les structures d'un royaume. Et dans le même temps, cet homme qui embrasse tous les domaines de la vie publique de ces royaumes, on va y revenir là-dessus, est un homme qui écoute les conseils. Il a des conseillers. Alors, ça, c'est toujours le vieux dilemme. Vous évoquiez tout à l'heure mon livre sur Philippe le Bel. J'ai rencontré ce problème dès que j'étudiais Philippe le Bel. C'est-à-dire, est-ce une potiche avec des grands légistes ou est-ce un grand roi avec des hommes de paille ? La question ainsi posée est fausse. Parce que jamais de mauvais hommes de paille ne travailleront que si... Non, il faut la conjonction des deux. Il faut la conjonction de Louis XIII et de Richelieu. Vous ne pouvez pas concevoir des grands gouvernants qui ne soient pas soutenus au-dessus. Ça sera la grandeur de Philippe le Bel de soutenir Nogaret, même quand Nogaret est devenu impopulaire. Eh bien, là, c'est la même chose. Charlemagne sait s'entourer. Ou, avec une capacité de préemption prodigieuse, il passe, il y a un clerc qui lui tient des propos qui l'intéressent, pouf, il l'emmène avec lui. L'autre n'a pas le choix, il suit avec sa chapelle, hein, il se retrouve dans toi, mais il n'y perd pas. Et autrement dit, il a constitué, avec Paul Diacre, avec Alcuin que je citais tout à l'heure, ou Théodulphe, avec quelques autres, un petit ensemble de conseillers qui sont des intellectuels, au sens actuel du terme. C'est-à-dire pas seulement des clercs et des théologiens, qu'ils sont généralement, mais aussi des penseurs politiques, et c'est de ce milieu-là que va venir l'idée d'une résurrection de l'Empire.
Je reçois Jean Favier, auteur d'une biographie de Charlemagne parue chez Fayard. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous reprenons le cours de notre émission. Nous évoquons la personnalité de Charlemagne avec Jean Favier. Peut-être une dernière question sur cet homme qui a tant de qualités. Vous l'écrivez tel quel. Vous avez montré un homme ferme, mais c'est un homme, dans votre livre, qui a un souci moral. Et ce souci moral implique la charité. Certes, un homme de rigueur, mais un souci d'équité et de justice.
Ah, il se soucie de ceux qui n'ont pas à manger. Il se soucie de l'approvisionnement, disais-je tout à l'heure, parce qu'il n'a pas, il trouve déraisonnable que dans son royaume ou dans ses royaumes, des gens meurent de faim parce qu'il y a crise frumentaire et accaparement. Donc les accapareurs sont dans son collimateur.
Alors, venons-en donc au couronnement. Je vous cite encore une fois, vous dites « Tout laisser attendre un geste tel que celui de Noël 800, rien, ni dans l'esprit des gouvernants, ni dans les réalités politiques de l'Europe occidentale, ne le préparait directement. »
Bah, la vérité, c'est qu'on commence de s'interroger, peut-être 4 ou 5 ans avant le geste, on commence de s'interroger sur une inadéquation. Charlemagne, il est roi. Il est roi de quoi ? D'abord, il est roi deux fois. Roi des Francs et roi des Lombards. C'est pas normal, ça. On est roi d'un peuple. On n'est pas roi de deux à la fois. Deuxièmement, roi des Francs, ça couvre le royaume franc, le peuple franc. Ça ne couvre pas les Thuringiens, les Saxons, les Bavarois. Ça ne couvre pas les Hessois. Roi des Lombards, est-ce que ça couvre les pays qui n'étaient pas soumis à la domination lombarde ? Bon, en bref, les deux appellations sont en porte-à-faux par rapport à la réalité. Deuxièmement, il a commencé à ébaucher une certaine décentralisation. Elle était essentiellement nécessaire en Aquitaine. L'Aquitaine avait des tendances particularistes et le seul moyen de les limiter, ça a été d'envoyer l'un des fils du roi, le futur Louis le Pieux, comme roi d'Aquitaine. Et puis, il y a son fils aîné, Charles, qui est roi mais qui n'a pas de royaume. Il est roi à côté de son père, lequel est roi. Et puis, il y a l'autre, Pépin. Et cet autre fils, Pépin, il est fait roi d'Italie, non pas des Lombards, d'Italie. Alors, voyez un peu le montage, si je puis parler, parce que en réalité, ce n'est pas monté, c'est le résultat du cheminement politique. Voilà un homme qui est roi de deux royaumes et qui a sous lui trois rois qui sont chacun roi d'un royaume qui n'est pas le royaume du père. Et tout ça forme un ensemble. Bon, c'est disparate. Et d'un point de vue théologique, ça ne tient pas debout, parce qu'une royauté, c'est un pouvoir conféré par Dieu sur un ensemble cohérent et logique, et non pas sur un puzzle de royaumes plus ou moins imbriqués au gré des conquêtes. Par conséquent, je dis que ça colle pas. Et puis alors, il y a autre chose qui ne va pas, c'est que finalement, les dimensions ne sont plus celles que l'on a coutume de voir en un royaume. Et la question se pose 2 ou 3 ans avant le couronnement. C'est Alcuin qui en parle, c'est Théodulphe. Est-ce que on n'est pas devant quelque chose qui serait un peu, non pas l'Empire romain, redivivus, non, on ne va pas jusqu'à dire il faut repartir comme si Romulus Augustule n'avait pas sombré, non. Mais est-ce qu'on n'est pas devant quelque chose qui ressemblerait à ce qu'a été un empire ? Est-ce que le mot empire ne conviendrait pas mieux ? Alors je vous rappelle que empire, qu'est-ce que c'est qu'un impérator ? C'est un général en chef victorieux. Qu'est-ce qu'est Charlemagne ? Un général en chef victorieux. Il y a une coïncidence étroite, là. À mesure qu'on approche de Noël 800, Charlemagne va en Italie pour essayer de mettre de l'ordre dans cette région romaine où le pouvoir du pape chancelle.
Il y a une guerre civile à Rome.
Oui, mais il y va quand même avec une idée très, très nette maintenant, c'est on va le proclamer empereur, autant faire ça quand même à Rome. Et ça va permettre ultérieurement, mais beaucoup plus tard, un siècle et demi plus tard, de parler de l'Empire romain germanique au successeur d'Othon le Grand. Charlemagne, on va utiliser des périphrases. Alcuin dira « Toi qui gouvernes l'Empire chrétien », c'est ce qu'on utilisera le plus. Et quand même, qui gouverne l'Empire romain ? On s'y hasarde, pas trop, parce qu'il y a un empereur romain à Constantinople. Alors on essaie de pas trop le vexer, pas trop se fâcher avec lui. Quand même des frontières communes, il est pas si loin que cela. Constantinople, c'est loin, mais la Dalmatie, c'est tout près. L'Illyrie, c'est tout près, qui sont byzantines. Par conséquent, on hésite sur le... Il est empereur, mais on sait pas très bien de quoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sent très bien de quoi. Il est l'empereur de la chrétienté latine. Il est l'empereur de ceux dont le pape est le pape. Simplement, on l'a dit au pape très clairement... qu'il est, lui, le grand prêtre de cet empire, mais que le chef, c'est Charles, et personne ne s'y trompe. Lorsque le pape le couronne, alors on reprend la titulature romaine, Auguste, bien sûr, il faut bien, sinon il n'y a pas d'empereur. Empereur, impérator, Auguste, etc., ce sont des mots. En réalité, on hésite, on ne sait pas très bien comment le qualifier. Le pape en a probablement fait un peu plus que ce qu'espéraient les Francs. Il est certain que Charlemagne était venu avec l'idée qu'on allait certainement le faire empereur. Le peuple franc n'est pas en état d'improviser sans autorisation. Hein. Le peuple franc est aux ordres. Le peuple franc sait très bien qu'on va le proclamer empereur et qu'il va applaudir. On ne sait pas que le pape va s'arroger un rôle. Et je voudrais attirer votre attention sur un fait rentrée qui passe souvent inaperçue, non pas des historiens de l'Empire, mais quelquefois des lecteurs un peu rapides de l'histoire impériale de Napoléon, c'est que Napoléon avait parfaitement lu son histoire, il savait très bien ce qui était arrivé à Charlemagne, il entre dans Notre-Dame, sa couronne en tête. Eh oui. Bon. Autrement dit, il ne la devra pas au pape, il est entré dans Notre-Dame. On porte devant lui la couronne de Charlemagne, qu'on a refabriquée quelques jours plus tôt, parce que ça n'avait pas été passé. Mais en réalité, la couronne de Napoléon, c'est la couronne de feuilles de laurier, et il entre dans Notre-Dame en l'ayant en tête. Le pape n'aura aucune illusion, c'est pas lui qui fait l'empereur. Eh bien, Charlemagne a très bien rétabli la chose, parce qu'il avait la main sur son clergé, et parce que le clergé ne se sentait pas vraiment les subordonnés du pape. Il faut bien voir que nous ne sommes pas devant un souverain pontificat du type de celui qu'on connaît à partir de la réforme grégorienne, c'est-à-dire du XIe siècle, où le pape est vraiment le chef de l'Église, encore plus à partir du XIIIe siècle, des très grands papes, Innocent III, etc. Non, le pape, c'est l'évêque de Rome, c'est le premier des évêques sans le moindre doute. Dire que les évêques de Gaule ou de Germanie reconnaissent le pape comme leur chef, qu'ils le reconnaissent certainement comme au-dessus d'eux, oui, mais pas forcément au point de se dire qu'ils sont aux ordres du pape, tandis qu'ils sont bel et bien aux ordres de l'empereur.
Le fait qu'il n'y ait pas de continuité avec l'Empire romain, ou que cette continuité soit très très nuancée, est-ce qu'on ne pourrait pas parler, si vous me permettez ce terme osé, de révolution carolingienne ?
Oui, il y a de ça. Mais il y a innovation surtout. Je demande qu'on ne commette pas un impair, qui est facile quand on oublie la chronologie. C'est qu'au moment où Charlemagne reçoit cette couronne dans Saint-Pierre de Rome, dans la nuit de Noël 800, il ne sait pas qu'on va en parler longtemps de cet empire. Et on en a la preuve. Il a considéré ça comme une décoration personnelle. Il n'a pas pensé dans l'immédiat qu'il y aurait une transmission. Et la preuve, elle est très simple. Il a trois fils et il attendra que deux d'entre eux soient morts pour couronner le survivant. Autrement dit, alors qu'il se préoccupe gravement, très sérieusement, avec beaucoup d'état d'âme, il se préoccupe du partage de son royaume, c'est-à-dire de l'ensemble de ses royaumes. Le partage de ceux dont il est le chef, des territoires et des hommes, il s'en préoccupe. Il a trois fils. Il ne se préoccupe pas du tout lequel aura le titre impérial. Partage-t-on le titre impérial ? On n'en parle pas. On n'en parlera que quand il n'en aura plus qu'un à ce moment-là. Eh bien, j'allais dire, le mouvement crée le mouvement et Louis le Pieux se retrouvera empereur. Mais dans les années qui suivent le couronnement impérial de Charlemagne, il se comporte comme si c'était un titre donné à lui personnellement, mais non pas à une dynastie, pour correspondre à une situation politique d'exception qui est autant de couronnes sur la même tête. Et normalement, le partage entre ses fils, car un royaume barbare, ça se partage, la notion de l'État indivisible n'existe pas. Un royaume, c'est un bien patrimonial, ça se partage, et par conséquent, eh bien, on partagera les royaumes. Et cette distinction donnée à Charlemagne, parce qu'il était unique dans la mesure où il avait le tout, mais il n'y a pas de raison de la maintenir, puisque les successeurs n'auront pas le tout. Il se trouve que ce sera le cas, parce que deux d'entre eux mourront avant leur père, et qu'il ne restera qu'un seul fils, Louis le Pieux.
Dans le portrait que vous en faites, d'ailleurs, vous le présentez comme un homme très simple. Il n'était en rien, l'ostentation, les beaux vêtements, etc.
Non, pas du tout. Il mange très bien, il boit très bien. Oui. C'est une force de la nature. Il reçoit ses conseillers dans sa piscine. Il faut quand même le dire. Il n'y a pas beaucoup de souverains du Moyen-Âge qui se soient adonnés à la natation dans la piscine qui s'est fait construire avec sa chapelle. Il y avait une source d'eau chaude, hein, faut préciser. Mais il s'est fait construire une piscine et c'est là qu'il donne des rendez-vous. Et en nageant, il évoque les problèmes politiques de son royaume ou de son empire avec ses conseillers. C'est une force de la nature et ça explique d'ailleurs le fait qu'il puisse être très rapidement aux actes en Germanie, en Gaule. Et même là, ça a été le seul grand échec de sa vie en Espagne. L'échec parce qu'il n'a pas compris l'Espagne. Il a été mal informé.
Comme Napoléon.
Il a cru que les chrétiens d'Espagne étaient victimes des musulmans, alors qu'ils arrivaient à s'entendre pas trop mal. Les chrétiens d'Espagne avaient des privilèges et les chrétiens d'Espagne ont beaucoup plus mal supporté de voir arriver les Francs qu'ils ne supportaient la présence de l'islam.
Donc un empereur, mais un homme malgré tout très humble.
Un homme d'une extraordinaire dimension à tous égards. Vous évoquiez tout à l'heure, en commençant cet entretien, le fait que c'était à la fois un personnage de l'histoire et un personnage de légende. Il n'y en a pas beaucoup qui soient à la fois de vrais personnages historiques et le héros de dizaines de chansons de gestes. Je vous rappelle que le Roland des chansons de geste n'a pas existé tel quel. Il y a un Roland, comte de la marche de Bretagne, qui n'était pas le neveu de l'empereur. Olivier n'existe pas. L'archevêque Turpin a existé, oui. Mais soyons clairs, la plupart des héros des chansons de geste, Guillaume d'Orange ne ressemble pas beaucoup à Guillaume de Gélonne, le vrai. Et Charlemagne est devenu un personnage de légende, mais ça va beaucoup plus loin. Est-ce que je peux vous demander, si vous jouez aux cartes, de regarder les rois et vous y apercevrez Charles ? Charlemagne est encore dans la main de tous les joueurs de belote de France, de Navarre et d'ailleurs.
Alors, il y a un point très important que vous évoquiez tout à l'heure, c'est cette question de l'Empire d'Orient, car il y a un empire et qui est, lui, dans la continuité de l'Empire romain. Comment réagit-il ?
Mais qui a beaucoup souffert de la crise de l'iconoclasme. Je simplifie les choses parce qu'il y a une chronologie un peu compliquée, mais pendant un certain nombre d'années, la vénération des images a été prohibée. Je rappelle qu'en théologie, on adore Dieu, mais qu'on peut vénérer des images ou des reliques. Et ça semblait trop proche du paganisme, ça a été prohibé. Mais le résultat, c'est que comme l'Occident, qui était beaucoup moins proche des paganismes orientaux, a maintenu le culte des images, et puis qu'en Occident, on a l'esprit moins théologique, il y a beaucoup, les hérésies naissent tout en Orient, parce que c'est en Orient qu'on réfléchit sur ces problèmes-là. Vous savez, la foi du charbonnier, ça ne fait pas des hérésiarques. L'hérésiarque, c'est quelqu'un qui réfléchit trop longtemps, et qui par conséquent vient de ne pas penser comme tout le monde. Et par conséquent, Byzance a été déstabilisée. Au moment où Charlemagne est couronné, le problème que tout le monde se pose, c'est est-il normal que l'empereur à Byzance, ça soit une femme ? Qui ne se dit plus Basilissa, c'est-à-dire impératrice, femme d'un empereur, mais qui se dit Basileus, c'est-à-dire empereur et non pas impératrice. Problème qui aujourd'hui qu'on retrouve en français, Madame la Présidente, Madame le Président. Bien oui, mais le problème de l'ambassadrice qui n'est pas une femme ambassadeur, c'est exactement celui de l'impératrice Irène, qui, alors en plus, ils ont un grand talent pour se massacrer les uns les autres, ce qui fait que le prestige de Byzance à ce moment-là n'est plus ce qu'il a été à la grande époque de Justinien. Il faut être clair, à l'époque de la reconquête par Justinien d'une partie du bassin méditerranéen, à l'époque de Bélisaire qui pousse très loin cette reconquête, le prestige de Byzance est entier. Il ne l'est plus à ce moment-là. Et par conséquent, on se demande un peu ce qu'ils vont dire à Byzance. Ça ne va pas jusqu'à empêcher d'agir et ça va encore moins jusqu'à empêcher Charlemagne de faire prendre par l'Église d'Occident des positions sans demander l'avis du Basileus, sans demander l'avis du patriarche de Constantinople.
Donc le couronnement de Charles est aussi la conséquence de l'incapacité de Byzance à protéger Rome ?
Non, c'est probablement la conséquence du fait qu'on ne se pose pas de manière trop sévère la question « que pensera-t-on à Byzance ?» En un autre temps, ça serait sans doute posé de manière beaucoup plus dure. Là, le spectre de Byzance et du mécontentement byzantin ne plane pas.
Nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean Favier, auteur de la biographie Charlemagne, parue chez Fayard. Et nous entamons, monsieur Favier, la dernière partie de cette émission. Ce qu'il y a d'étonnant, et nous avons du mal surtout en cette époque où nous commémorons le centenaire de la loi de 1905, nous avons du mal à comprendre l'imprégnation chrétienne de cette société. Et Charlemagne, et vous parliez tout à l'heure de la foi du charbonnier, Charlemagne n'a pas la foi du charbonnier, Charlemagne est un intellectuel.
C'est un homme qui veut comprendre. C'est un homme qui n'a pas reçu une très forte instruction, il en a souffert, c'est pourquoi il fera instruire les jeunes de son royaume, mais c'est un homme qui s'est mis en tête d'apprendre du latin, qui se met en tête d'apprendre à écrire. Charlemagne sait ce qu'est l'enjeu d'une société cultivée. Alors, cela dit, il ne faut pas non plus se tromper et s'imaginer que parce que les clercs sont partout, la religion est partout. Elle y est parce que les clercs y sont. Mais il faut quand même savoir faire une espèce d'équivalence. J'ai un jour, dans un livre sur Paris, sur l'histoire de Paris, écrit que Paris était restée la ville de clercs qu'était Paris au XIVe, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle. Oui, si vous voulez bien considérer que les clercs d'aujourd'hui, ce sont les magistrats, les avocats, les médecins, les énarques. Je vais très loin, les experts comptables, ce sont ceux qui étaient des clercs au Moyen-Âge. Et par conséquent, Paris est resté pas seulement une ville du secteur tertiaire, mais aussi une ville formée de ces gens dont toute l'activité professionnelle est une activité qui fait marcher les matières grises, c'est-à-dire les neurones. La présence, l'omniprésence des clercs dans la société médiévale, c'est l'omniprésence des gens qui savent lire, écrire, réfléchir, s'exprimer, en sachant que parmi eux, il en est quand même beaucoup qui sont des gens de très grande foi. Il y en a qui sont clercs parce que c'est le moyen de faire carrière. Mais il y en a beaucoup qui ont une grande foi. Mais avoir une grande foi n'interdit pas d'être en même temps un grand juriste, d'être en même temps un chancelier de France, ou d'être en même temps un simple clerc de la chancellerie.
Est-ce que, avec le temps.
Alors, tout ça pour dire que la notion de séparation de l'Église et de l'État n'existe pas.
Oui,
Elle n'existe pas parce qu'on n'en est pas à la définition que l'on pouvait en donner un peu avant 1905, où là, il y a incontestablement un monde de l'Église, des Églises, et un monde de l'État, avec des fonctionnaires de l'État. Bon, c'est très différent.
Est-ce que la réputation religieuse de Charlemagne va faire en sorte que. Après sa mort, et juste après sa mort, il y en a certains qui crient, comme on crie aujourd'hui Jean-Paul II, Sancto Subito. Sancto Subito, saint tout de suite.
Oui, pas tout à fait, non. Pas tout à fait. La canonisation de Charlemagne, elle a été fabriquée par Frédéric Barberousse à des fins très particulières et pour damer le pion au pape. Non, je crois que Charlemagne n'est pas passé immédiatement pour un saint, il est passé pour un grand homme de l'histoire de l'Église, de la vie de l'Église. Je ne dis pas un grand homme d'Église, mais un grand homme, on lui doit quand même beaucoup, y compris dans l'organisation de l'Église d'Occident. Alors, Sancto Subito, non, certainement pas. Je pense que le temps est passé à ce moment-là, du Sancto Subito systématique. À l'époque mérovingienne, et surtout dans les deux premiers siècles, un évêque qui meurt le lendemain matin, tout le peuple dit c'est un saint. Il n'y a pas de canonisation. Au XIIIe siècle, il y a des procès de canonisation. On fait des enquêtes. Au 5e, comme au 7e ou au 8e, on ne fait pas d'enquête de canonisation. C'est la vox populi. Et c'est parce qu'il y a eu des excès que la papauté, mais la papauté du 12e et du 13e siècle, ont voulu, j'allais dire, conquérir ce droit à élever un personnage sur les autels pour éviter de galvauder le titre. Parce que sinon, on voyait s'accumuler les saints, que nous maintenant nous appelons les saints locaux, quoi, si vous voulez, parce que les calendriers les ont souvent gardés, y compris pour des personnages dont l'histoire est assez souvent l'Église. Jean 23, qui était historien de vocation, si je puis dire, avait mis le holà de ce côté-là. On l'a quand même supprimé, même du calendrier religieux, un certain nombre de saints dont il était évident qu'ils n'avaient jamais existé. Mais ceux qui les avaient proclamés saints étaient de bonne foi.
Ouais.
Alors, c'était une autre conception. On ne peut pas plaquer la conception que nous avons de la sainteté aujourd'hui. La plaquer sur des réalités sociales et politiques et ecclésiales du 5e, du 8e siècle.
Alors il y a précisément, et ça sera, si vous le voulez bien, Jean-Favier, le mot de la fin, il y a une autre conception qui reste dans nos mémoires, c'est l'hérédité et l'unité du royaume. Cette unité ne peut exister. Vous la comparez, vous dites un royaume, vous parlez d'un royaume, celui de Charlemagne, en trois royaumes divisés entre les trois fils, et vous comparez cette équation en quelque sorte à l'équation dont vous parliez tout à l'heure dans la querelle du filioque.
Oui, la vérité c'est que Charlemagne s'est trouvé face à un royaume dont les structures n'avaient pas évolué depuis l'avènement des Mérovingiens, à une église qui n'avait pas non plus beaucoup évolué. Et sans le moindre doute, il a initié, lancé un aggiornamento, une mise à jour de toutes les structures. Il n'a pas tout réussi, il n'a pas tout réussi du premier coup. Si vous voulez, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, un certain nombre de décisions sur la liturgie, etc. Elles ont été continuées après lui. Mais il a lancé les idées. Ce qui l'emporte dans l'esprit de Charlemagne, et je conclue là-dessus parce que je crois qu'il est temps de conclure, c'est la volonté d'unité. Le monde chrétien est assimilé au royaume franc, et le royaume franc, c'est l'ensemble du royaume soumis au roi des francs, même quand ce ne sont pas des francs, et tout ce monde-là doit avoir une unité, politique, unité de pensée, unité religieuse, et je vous le disais tout à l'heure, y compris monétaire.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Favier. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et notamment une biographie de Charlemagne parue aux éditions Fayard. Je renvoie également nos auditeurs à votre biographie de Philippe Lebel, qui a été rééditée, revue et augmentée en 1998. Et je vous donne rendez-vous dans un instant pour les 5 minutes de Clio. A tout de suite.